Chapitre 11. L'esprit du dragon. La race des anciens occupait un territoire immense. Peu de documents ont survécu de leur époque et nous ne déchiffrons pas complètement toutes leurs runes. Néanmoins, plusieurs glyphes dont nous nous servons semblent apparentés à ceux dont ils marquaient leurs cartes et leurs monolithes. Les rares détails que nous possédons sur eux indiquent qu'ils se sont mêlés aux humains ordinaires, au point parfois de résider dans les mêmes cités, et notre savoir sur eux provient peut-être en grande partie de cette mixité. Les montagnards détiennent d'anciennes cartes, sans doute recopiées à partir de manuscrits plus vieux encore, qui donnent à penser que leurs ancêtres avaient des connaissances géographiques dépassant largement les frontières actuelles de leur pays. Les routes et les villes portées sur ces reproductions n'existent plus ou datent de si longtemps qu'elles relèvent aujourd'hui de la légende. Aspect peut-être le plus étonnant de ces représentations, on y trouve signalées des cités situées au nord jusque dans l'actuel Béarn et au sud jusqu'au rivage maudit. Traité d'un peuple disparu, de Jérepu. Je rejoignis Devoir sans un mot, et il ne me posa pas de questions. Une petite lanterne à la main, il me mena par la rampe dans une fosse considérablement plus profonde et plus étroite que la dernière fois où j'y avais manié la pelle. Je vis où les efforts s'étaient concentrés, une fois la masse noire de la bête devenue visible à travers la glace. Encore une fois, comme une vague inattendue, ma perception de glace-feu s'enfla brusquement, puis s'effondra et s'évanouit. Me sentir à ce point conscient de celui que je m'apprêtais à tuer sapait ma détermination. À la suite du prince, je me dirigeai vers une extrémité de l'excavation où s'ouvrait un tunnel creusé dans la glace. D'abord plus haut qu'un homme, et large comme deux de front, il s'étriqua bientôt, et je dus y progresser courbé, ce qui accentua ma douleur à l'épaule. Comme j'avançais derrière Devoir, deux informations s'imbriquèrent soudain dans ma tête. D'un côté, Burik avait dit être prêt à tuer un dragon pour ramener l'Est chez lui. De l'autre, Orti avait informé Lour que son père était parti à la chasse au dragon. Juxtaposée, elle signifiait que ma fille ne savait rien de moi. En proie à une empoignade féroce entre le soulagement de ne lui avoir rien révélé sur moi et l'affreux pressentiment que je n'existerais jamais vraiment dans sa vie, j'eus tout à coup l'impression que les ténèbres, la glace et le froid m'enserraient. Et l'espace d'un vertigineux instant, je me sentis enfermé dans le glacier, écrasé, prisonnier, appelant la mort de mes vœux, mais incapable de me rendre cet ultime service. Suffoqué de honte, j'essayais de mourir par la force de ma seule volonté. Puis l'oppressante obscurité se dissipa, et je repris ma marche d'un pas mal assuré. Je chassais de mon esprit toute pensée d'Orti, de Burik et de Molly, et me concentrais sur ma mission immédiate, tuer le dragon. Je continuais de m'enfoncer dans le boyau à la suite de Devoir, en me répétant que j'avais peut-être encore la possibilité de sauver le fou. Bref, en me mentant. À la lueur de la petite lanterne, je ne voyais que la luisance humide des parois et la silhouette du prince devant moi. Le tunnel s'acheva brusquement. Devoir se retourna vers moi et s'accroupit. « La tête se trouve là. Du moins, le pensons-nous. » Il indiquait la glace éraflée à nos pieds. Je plissai les yeux. Je ne distingue rien. Il faudrait la grosse lampe et la lumière du jour. Pour l'heure, croyez-moi sur parole. Sa tête est juste en dessous de nous. Maladroitement, dans l'espace restreint, il décrocha son sac de son épaule et le posa entre nous pendant que je m'asseyais sur mes talons. Il aurait tout juste la place d'enjamber la casserole et de me contourner une fois le feu allumé. Le froid nouait mon épaule et plaquait sur mon visage meurtri un masque douloureux et glacé. Peu importait. Il me restait ma main droite. Même dans mon état, je ne devrais avoir guère de mal à faire une flambée, puis à y déposer un pot en terre. Nous installâmes d'abord les pièces de cuir. Devoir les arrangea entre nous, comme un soldat qui s'apprête pour une partie de dés avec un camarade. C'était des peaux épaisses, l'une d'ours polaire, l'autre de vache marine, et toutes deux empestaient. Je déposai la casserole au centre et le flacon d'huile à distance prudente, en compagnie du pot de poudre. Avec des copeaux de bois et des morceaux de tissu déjà roussis par le feu, je bâtis un petit nid dans la casserole, et devoir attendit que j'eusse tiré en vain trois gerbes d'étincelles du briquet avant de me demander, d'un ton circonspect, « On ne pourrait pas l'allumer à la lanterne, tout simplement ?» Je levai vers lui un regard assassin, auquel il répondit par un sourire malicieux. La lumière rehaussait la rougeur de ses joues et les crevasses de ses lèvres. Je ne me sentais nullement d'humeur folâtre, mais je parvins à lui rendre son sourire, en me rappelant brièvement que sur ses jeunes épaules pesaient aussi des fardeaux, dont le moindre n'était pas qu'en tuant le dragon, il trahirait, pour ainsi dire, son lignage et son clan de vifs. Et il n'y gagnerait même pas la réalisation de son rêve. La jeune fille qu'on lui avait promise et qu'il avait appris à aimer ne servait que d'appât pour l'amener à exécuter la volonté de la femme pâle. Elle s'était offerte à lui non par amour, non pour sceller une alliance, mais seulement pour acheter la mort de sa mère et de sa sœur, fondation bien précaire pour un mariage. Pourtant, au fond de notre trou, nous nous efforcions de respecter les termes de son marché. Je redressai le dos. « Occupez-vous du feu, puis sortez d'ici, » dis-je. « Ah, et puis aidez Burek à s'éloigner du bord de la fosse. Il n'y voit pas bien. » Tiens, je le croyais seulement aveugle. Je reconnus l'humour des adolescents, l'ironie morbide de celui qui ne craint pas de subir le sort dont il se gausse. Je ne trouvais pas la force d'en sourire, mais Devoir ne s'en rendit peut-être pas compte. Il prit un morceau de tissu dans la casserole et l'approcha de la flamme du lumignon. Elle le lécha avidement et s'embrasa aussitôt. Vivement, Devoir le laissa tomber sur les copeaux, mais il s'éteignit. « Rien n'est jamais facile, » fis-je lorsque notre troisième tentative avorta. Je dus incliner la casserole sur le côté et mon compagnon se brûla les doigts en enfonçant le dernier bout de charpie incandescent sous le combustible. Nous retînmes notre souffle et peu à peu, une flamme minuscule s'agrippa au petit bois pour en entamer l'ascension. Je la tonifiai à l'aide de copeaux en jugeant préférable de ne pas replacer le récipient sur son fond au risque d'éparpiller le maigre brasier, mais plutôt d'y insérer le pot comme une miche de pain dans la gueule d'un four. La fumée qui s'épaississait me fit tousser. « Il est temps de vous en aller, » dis-je au prince. « Mettez la poudre dans le feu et nous partirons ensemble. » « Non !» Je voulais le savoir en sécurité avant de commencer l'opération, mais j'usais de diplomatie. Je tiens énormément à Burek. Or, sa fierté l'obligera à attendre mon retour avant de s'éloigner. Prenez-le par le bras. Assurez-lui que j'arrive, que vous me voyez, et entraînez-le à bonne distance de l'excavation. Les inventions d'Imbre se révèlent parfois beaucoup plus efficaces qu'il ne s'y attend lui-même. Vous me demandez de lui mentir ? Il était outré. Je vous demande de l'emmener à l'abri. Il boite et ne peut pas se déplacer aussi vite que vous ou moi. Je vous laisserai quelques instants pour commencer à l'éloigner, puis je déposerai la poudre dans le feu et vous rejoindrai. L'artifice fonctionna. Le prince ne m'aurait jamais quitté si lui seul avait couru un risque, mais il accepta de sortir pour protéger Burek. Je louai Ketriken de l'altruisme qu'elle avait inculqué à son fils pendant qu'il enjambait prudemment la casserole brûlante puis se faufilait entre la paroi de glace et moi. J'écoutais ses pas s'éloigner dans le boyau en m'efforçant de calculer combien de temps il lui faudrait pour sortir de la fosse, arriver jusqu'à Burek et l'emmener. Rien ne pressait. Inutile de prendre des risques. Dans quelques minutes, le dragon serait mort et le fou peut-être sauvé. Je m'aplatis sur le sol pour éviter la fumée qui s'accumulait au plafond et alimenter mon feu débutant. Il me fallait une bonne couche de braise avant d'y loger le pot de poudre. À contre-cœur, je jugeais que je devrais alors ajouter l'huile afin que les flammes s'élèvent autour du petit récipient. J'ouvris le flacon et le plaçai à portée de ma main. Je ne risquais rien. La gourde qu'Imbre avait jetée dans mon âtre n'avait explosé qu'au bout d'un long moment. Naturellement, cela se passait avant qu'il n'améliore sa substance. « N'y pense pas, » me dis-je. « Ne t'imagine pas périssant là, brûlé, broyé. Non. » Je pouvais me retrouver pris au piège de la glace, immobilisé, tandis que le froid m'entraînerait dans une obscurité de plus en plus profonde, jusqu'à l'extinction complète. Cette lente descente dans la mort me semblait presque lâche. Pourtant, quelle autre façon de partir existait-il? Seul, sans compagne, que trouvais-je si cruel à mourir par la glace? Une goutte d'eau détachée du plafond tomba sur ma nuque et me ramena brusquement à la réalité. Comment mes pensées avaient-elles pu s'égarer si loin? Les peaux sous l'incandescence se flétrissaient et dégageaient une odeur pestilentielle. Je me brûlais les doigts en voulant relever le bord de la casserole afin qu'elle retînt l'huile le moment venu. Avec un juron, je les plaquais sur la glace pour calmer la douleur. C'est alors que, tel un raz-de-marée, le dragon me submergea. Je ne pense pas que ce fût volontaire. On peut le comparer à l'homme qui retient son souffle en se croyant capable de mettre fin ainsi à sa propre vie, et dont le corps, triomphant de l'esprit à la dernière seconde, aspire la grande goulée d'air qui force l'être à survivre. À cet instant où sa maîtrise lui échappait, le contact s'opéra entre nous. Il ne relevait ni du vif, ni de l'art, mais d'un autre moyen d'échange, et quand je m'en aperçus, je compris qu'il s'agissait d'un moyen propre au dragon. J'en avais déjà fait l'expérience lorsque Tintaglia investissait mes rêves par le biais d'Ortie. Je croyais alors que cette forme de communication lui était particulière, mais je me trompais. Glacefeu l'employait également. Tintaglia y paraissait plus douée, ou bien, ayant surtout affaire à des hommes, elle avait appris à conformer ses pensées au cadre de notre esprit. Le dragon m'envahit et me noya sous son essence. Je ne perçus aucune formulation de mots ni de concepts humains. Il ne s'agissait pas d'une tentative de relation avec moi, mais dans cette éruption de pensée, d'émotion et d'intelligence, j'en appris bien davantage sur lui que je ne le désirais. Quand il se retira de moi, me laissant échouer dans mon individualité, mon coude se déroba et je me retrouvai à plat ventre sur la glace, le visage désagréablement près de la casserole brûlante. Ce bref épisode où j'avais partagé les souvenirs du dragon me paraissait plus réel que toute mon existence. Il était vivant. Cela ne faisait aucun doute, et doué de conscience, mais d'une conscience concentrée tout au fond de lui. Il souhaitait la mort. Il avait abordé sur l'île expressément pour la trouver, car un dragon ne meurt pas facilement. Il peut succomber à la maladie, à une blessure, ou lors d'un combat avec un de ses congénères, mais en dehors de ces accidents. Nul ne sait quelle durée atteint sa vie. Glacefeu était une créature puissante et vigoureuse, dont les années s'étendaient loin devant lui. Mais partout, il n'avait traversé que des ciels déserts, vides des siens, et les serpents qui auraient dû revenir pour regonfler les rangs des dragons avaient disparu. Les dragons et la plupart de leurs serviteurs, les anciens, avaient péri lorsque la terre avait tremblé, s'était fendue, et que les montagnes avaient vomi de la fumée, du feu et des vents empoisonnés dont l'impact brûlant avait abattu les arbres et détruit toute végétation. Beaucoup avaient disparu durant les premiers jours du cataclysme, carbonisés, asphyxiés ou étouffés par le déluge de cendres, d'autres au cours de la période terrible qui avait suivi. Car le printemps n'avait pas éclos cette année-là, et le fleuve, jusque-là rapide et large, s'était réduit à un filet d'eau qui se frayait tant bien que mal un lit vers la mer dans une poussière épaisse et avide d'humidité. Le gibier avait décliné, car cendres et scories ensevelissaient les prairies, et les feuilles des rares arbrisseaux rescapés étaient fines et poudreuses. En ces temps âpres, certains parmi les dragons survivants affirmaient qu'il fallait quitter les terres de leurs ancêtres. Quelques-uns s'y étaient risqués, mais on ne savait rien de leur sort, car aucun n'avait jamais reparu. Le manque de nourriture en avait affaibli beaucoup et avait provoqué la mort de bien d'autres, lors des batailles qu'ils se livraient pour les maigres proies qui demeuraient. Dense et acide, la cendre recouvrait le pays naguère verdoyant. Nulle graine n'y germait, et seules de rares plantes parvenaient à la percer. Les humains s'étaient éteints peu à peu, et même leurs cousins, les anciens, avaient lentement succombé. Les troupeaux des hommes avaient péri à côté de leurs gardiens à deux pattes. Les quelques cités qui n'avaient pas fini ensevelies se dressaient, désertes, fissurées, lézardées, sèches comme des coquilles d'œufs soigneusement gobées. Pourtant, Aucun dragon n'avait craint la fin de l'espèce. Humains et anciens pouvaient périr, les arbres s'étioler, le gibier disparaître, mais pas les dragons. 5 générations de serpents restaient dans la mer. Il y aurait 5 saisons de migration, 5 périodes de cocon. Les serpents renaîtraient sous forme de dragons, et quant à la terre, elle finirait par guérir. Glacefeu en avait été persuadé. Les années avaient passé, lui seul déployait ses ailes dans le ciel, et il avait guetté le retour des serpents. Mais aucun ne se présentait jamais sur les zones de nidification. Il les avait attendus, n'osant souvent pas s'en aller à la chasse, de peur qu'ils n'arrivent et ne trouvent aucun dragon pour les aider à filer leur cocon à partir du sable noir de la plage et de leur salive. Il devait y mêler sa propre salive et son venin pour leur donner ses souvenirs, sa mémoire qui remontait plus loin que sa naissance. Sans cela, les nouveau-nés seraient perdus. Il leur fallait son concours pour accéder à la totalité des réminiscences de toute l'espèce, à leur émergence des cocons sous le soleil brûlant de l'été. Mais les serpents n'avaient jamais reparu. Et quand il avait compris qu'ils ne viendraient plus, qu'il ne retournerait jamais, qu'il restait le dernier de son espèce. Il avait réfléchi à la façon dont il voulait mourir. Pas de manière ignominieuse, incapable de se nourrir à la suite d'un accident de chasse, future charogne à la merci des animaux inférieurs. Non, il déciderait lui-même de l'heure et du lieu de sa fin, et il ferait en sorte que son corps demeure éternellement intact. Cette idée à l'esprit, il avait gagné la froide Asléviale. Je la voyais telle qu'il l'avait vue, presque complètement prise sous la glace, et je ressentais sa déception de la découvrir ainsi, mais je n'en décelais pas la cause. Peut-être le niveau des mers était-il plus bas alors, ou bien les hivers plus rudes, car l'embâcle avait gelé les eaux qui entouraient l'île, si bien qu'il avait deviné, plus qu'il n'avait distingué, la mer sous la banquise. Il l'avait survolé, noir et luisant au-dessus de l'étendue blanche, sans parvenir à trouver l'entrée qu'il cherchait. Pour finir, il s'était rabattu sur une crevasse, y avait pénétré en rampant et avait laissé le sommeil s'emparer de lui. Sachant que, pour son espèce, il n'y a qu'un pas de la torpeur du froid à la mort. Mais le corps choisit toujours la vie, et ni la logique ni les sentiments ne l'ébranlent. Glacefeu avait glissé dans un état suspendu, mais sans parvenir à se défaire de son organisme. Malgré qu'il en eût, la conscience lui revenait par moments et lui criait qu'il avait froid, que le gel le pétrifiait, que la faim le tenaillait. La glace l'écrasait, tordait sa grande masse, mais ne parvenait pas à le briser. Il ne pouvait pas se tuer. Il aspirait à la mort, il rêvait de la mort. Il ne cessait d'y sombrer, et chaque fois, ses poumons perfides se gonflaient lentement. Son cœur insensé se contractait encore. Des humains venaient et s'en allaient comme des mouches attirées par un cerf à l'agonie. Certains tentaient de toucher son esprit, d'autres de percer sa chair. Inefficaces, les uns comme les autres. Il ne pouvait même pas l'aider à mourir. Je me sentis reprendre soudain mon souffle et me demandais depuis combien de temps je le retenais. J'avais l'impression qu'on avait ouvert les volets d'une taverne pour me montrer ce qui se passait à l'intérieur, puis qu'on les avait refermés brutalement. Tout ce savoir inattendu sur les dragons me laissait étourdi. Glacefeu m'avait submergé si complètement que j'avais la sensation d'avoir échangé mon identité avec la sienne, et je restais écroulé à plat ventre sur la glace, noyé, bien malgré moi, dans la conscience de la créature emprisonnée en dessous de moi. Je me raccrochais avec soulagement à sa volonté de mourir. Je ferai donc preuve de miséricorde en l'achevant. Je me mis à genoux et gémis de douleur en prenant appui sur mon épaule meurtrie. Puis, j'examinai l'intérieur de la casserole et m'accroupis pour souffler sur les braises qui rougirent. J'ajoutai quelques petits morceaux de bois et préparai soigneusement le combustible dont j'emmitouflerai le récipient de poudre. Je savais ce que c'était de désirer la mort. Je l'avais appelé de mes vœux quand Royal me tenait en son pouvoir. Torturé, souffrant du froid, de la solitude, de la faim, je l'aurais accueilli avec bonheur, sous n'importe quelle forme, pourvu qu'elle fût rapide. Aujourd'hui, venu tuer Glacefeu, j'apprenais qu'il n'espérait que le trépas. Je n'avais plus aucune raison d'hésiter. Prenant d'une main le pot de terre cuite, je m'emparai de l'autre d'un bout de bois pour lui ménager un nid dans les braises. Qu'un seul dragon vive ou meure, quelle différence! Dans son état de faiblesse, il ne survivrait sans doute pas même si nous le délivrions. Certes, si j'avais péri dans les geôles de Royal comme je l'avais souhaité, Ketriken n'aurait probablement jamais rejoint Vérité, ni réveillé les dragons de pierre pour défendre les six duchés. Mais non, je m'accordais trop d'importance. Elle serait allée seule retrouver son roi. Mais aurait-elle réussi à ramener les dragons à la conscience sans notre présence, à Œil de Nuit et moi? Si nous ne l'avions pas accompagnée, si le loup n'avait pas chassé pour elle, aurait-elle triomphé? Caudron serait-elle parvenue au bout de la route pour aider Vérité à terminer sa sculpture? Comme le fou l'avait si souvent répété, le sort du monde tout entier se jouait-il chaque jour sur les actes de chacun? Le feu brasillait dans la casserole, et je tenais la poudre dans la main. Quelque part, dans le palais de la femme pâle, sous mes pieds, le fou s'évertuait à s'écarter de la pierre de mémoire qui le forgisait un peu plus à chaque contact. Je devais faire vite. Je ne pouvais pas. Avec un gémissement plaintif, je pesais à nouveau mes choix. Si nous libérions le dragon, que gagnerions-nous? Rien. Peut-être Glacefeu prendrait-il son envol pour s'accoupler avec Tintaglia? Peut-être leur espèce peuplerait-elle la terre à nouveau? Le fou ne nous en avait jamais promis aucun bénéfice particulier. Il était seulement convaincu qu'il existait un lien entre les dragons et les anciens. Délivrer la créature ne m'apportait aucune garantie, sinon celle de la lente forgisation de mon ami et du maintien dans le ravilissement de la mère et de la sœur de la Narcheska. En revanche, si je tuais le monstre, de voir en recueillerait l'amour et la reconnaissance d'Eliania. Ils consommeraient leur mariage, ils auraient de nombreux enfants, ils régneraient longtemps et nous vivrions en paix avec les îles d'outre-mer. « Réfléchis bien, » m'avait dit Burik, « sans préjuger des faits. » Malgré sa cécité, il y voyait plus clair qu'Imbre et moi, omnubilés par notre volonté d'assurer les fiançailles, de décapiter le dragon. À présent, alors qu'il était presque trop tard, j'appliquais les principes que le vieil assassin m'avait enseignés bien des années plus tôt. « Demande-toi, et maintenant que se passe-t-il? À qui profite l'affaire ?» Je sortis mes pensées de leur ornière aussi péniblement qu'un chariot embourbé. Je tue le dragon. La femme pâle exécute enfin la mère et la sœur de la Narcheska et me rend le fou. Et ensuite, qui tire bénéfice de la situation? Un loin voyant tue le dragon outrilien. Et ensuite, le tableau m'apparut avec autant de netteté que si je possédais le don de prescience du fou. Cet affront fait au peuple des îles d'outre-mer non seulement éliminerait toute éventualité d'une résurrection des dragons, mais déclencherait l'unification des clans outriliens contre les six duchés. Loin de garantir un mariage qui scellerait une concorde durable, il constituerait le point de départ d'une nouvelle guerre. Imbre, Devoir et moi étions les derniers membres mâles de la lignée loin-voyant. Aucun d'entre nous, sans doute, ne quitterait Aslevial vivant. Et Orti? Si Ketriken révélait l'ascendance de ma fille et la proclamait héritière du trône, les Outriliens la laisseraient-ils régner en paix? J'en doutais fort. L'entente précaire à laquelle nous étions parvenus au cours des 15 années écoulées s'effondrerait comme un château de cartes. Le carnage commencerait sur Aslevial et se propagerait. Cette fois, il n'y aurait personne pour réveiller les dragons de pierre. Pas d'alliés anciens pour se porter à notre secours. Nos côtes connaîtraient à nouveau la ruine et la forgisation. La femme pâle resterait la souveraine incontestée de l'avenir qu'elle aurait créé. Le cœur battant follement à l'idée de l'acte que j'avais failli commettre, je songeais que le choix me revenait, au bout du compte, comme le fou l'avait prédit. Mais j'avais manqué de peu de réaliser les rêves de la femme pâle. Je posais le bout de mes doigts sur les empreintes qu'il avait laissées sur mon poignet. « Pardonne-moi, » dis-je, suppliant. « Pardonne-moi d'agir ainsi que tu l'espérais. » Puis, je me mis à plat ventre sur la glace. et de toutes mes forces, projetai ma conscience, mes deux magies mêlées vers le dragon. Mon art papillotait faiblement, mais mon vif était puissant, et je sentis Glacefeu remarquer ma présence. Je perçus le danger de son regard, comme la proie perçoit le fauve qui l'observe et lève brusquement la tête. Toutefois, au lieu de me faire tout petit devant lui, je rugis de toutes les fibres de mon corps, comme un prédateur qui en défie un autre pour disputer un territoire. Mon vif ne me permettait pas de lui communiquer mes pensées, mais exciterait peut-être sa curiosité, et s'il tendait son esprit vers le mien, il découvrirait ce que je savais, qu'il existait un autre dragon, une femelle, et qu'elle volait à tire-d'aile vers l'île, guidée par une mouette. Il avait pris note de mon existence, je le savais, mais à ses yeux, ni proie, ni de la meute. Je n'offrais pas plus d'intérêt qu'un corbeau et ne méritais pas son attention. Ses pensées se détournèrent et il replongea dans la mort et l'oubli. L'affolement me gagna. À l'instant où j'avais le plus besoin de mon art, il se réduisait à une braise mourante et je n'avais pas la puissance nécessaire pour nouer le lien avec Glacefeu, trop résolu qu'il était à poursuivre son propre anéantissement. J'essayais encore. Affûtais mon art comme une pointe de flèche et le décochais vers le dragon.
Te voici enfin! Je te croyais mort. Je te cherche depuis des nuits et des nuits. Que se passe-t-il? Pourquoi as-tu disparu?
La vigoureuse irruption d'Ortie s'empara de mon art défaillant, comme des mains solides saisissent un homme qui se noie, et elle serra mes pensées contre les siennes. Je la repoussai.
Pas maintenant, Ortie. Va-t'en, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi.
Puis, comme elle reculait, vexée et peinée, ma stupidité m'apparut soudain et je m'écriai
« Non, attends, reviens, j'ai besoin de toi !»
Elle s'arrêta aux limites de ma conscience. J'aperçus des lambeaux flottants de son rêve. Vêtue en chasseuse, les cheveux fixés en arrière, elle tenait un filet prêt à lancer. Je me précipitai vers elle en répétant d'un ton suppliant
« Non, reviens, je t'en prie, j'ai besoin de ton aide !»«
Pourquoi faire ? » demanda-t-elle d'un ton froid. Je l'avais froissée, en la rejetant brutalement après ma longue absence. Sans doute avait-elle oublié que, la première, elle m'avait barré ses pensées. J'aurais voulu lui fournir des explications, mais je n'en avais pas le loisir. Déjà, la perception que mon vif me donnait de Glacefeu commençait à s'estomper. Encore quelques instants et je le perdrais.
« Aide-moi à réveiller un dragon !» Il s'immerge tout au fond de ses songes à la recherche de la mort. Mais puisque tu sais intervenir dans le sommeil, peut-être parviendras-tu à t'infiltrer dans son rêve de mort et à l'en tirer.
Mais, fantôme de loup, changeur, est-ce vraiment toi qui me demandes d'agir ainsi? Tu m'as toujours mis en garde contre cette créature, jusqu'à m'interdire de prononcer son nom, et maintenant tu veux que je l'appelle?
Il s'agit d'un autre dragon.
Puis, l'épée dans les reins, je m'aventurai à contre-cœur, là où je ne m'étais jamais risqué.
Je t'en prie, fais-le pour moi, aie confiance et ne pose pas de questions.
Le temps m'est compté. Si j'en avais davantage, je te dirais tout. Je m'y efforcerai à la fin de cette affaire.
Mais, pour le moment, je te demande de te fier à moi. Réveille le dragon, aide-moi à lui parler.
Mais quel dragon?
Celui-ci.
Je le lui indiquai éperdument, du vif et de l'art. Hélas, Glacefeu avait à nouveau disparu.
« Attends, attends »
lançai-je à Ortie d'un ton suppliant. Il a sombré dans le sommeil pour l'instant, mais il est là, je te le jure. Reste avec moi et ouvre l'œil. Il ne va pas tarder à revenir.
« Allez-vous bien? Pourquoi ne ressortez-vous pas? Avez-vous placé la poudre ?»
L'art de devoir empreint d'affolement. C'était brusquement introduit dans le lien que je m'acharnais à maintenir avec ma fille.
« Encore un moment, mon prince, je dois effectuer une dernière opération. »
Puis, comme Glacefeu renaissait soudain à l'existence sous mes pieds, j'attirai frénétiquement l'attention d'Ortie.
« Là, le voilà, réveille-le, fais-toi remarquer. Dis-lui qu'il n'est pas le seul survivant de son espèce. Parle-lui de Tintaglia. Dis-lui qu'elle vient à sa rencontre pour le ramener à la vie et repeupler de dragons l'air et la terre. »
Alors, comme un coup de tonnerre annonçant la fin du monde, Imbre intervint.
« Fitz, que fais-tu? Nous trahirais-tu? Me trahirais-tu après tant d'années? Trahirais-tu le trône loinvoyant et ton propre sang ?»«
Je fais ce que je dois faire !»
répondis-je de toutes mes forces, car je sentais ma magie défaillir. M'avait-on entendu? Je l'ignorais. Allongé à plat ventre sur la glace du tunnel, je m'aperçus que je ne captais plus la présence du dragon. À quelques pouces de mon visage, la casserole rougeoyait, et je tenais dans la main le pot de poudre. Je rassemblais mon art, le martelais comme du fer chauffé à blanc, et le projetais hors de moi en espérant qu'Orti percevrait mes pensées. Persuade-le de se détourner de la mort, et de choisir la vie, de choisir le combat, l'effort, la douleur, et la vie belle, si belle. Parle-lui, explique-lui que Tintaglia est vivante, fais-toi mon porte-parole. Je vais essayer, fit-elle d'un ton sans conviction. Elle n'avait pas lâché notre lien. Je la sentais qui réfléchissait, mais je ne la voyais plus. Je ne distingue pas le dragon dont tu parles, mais si tu peux me le désigner, me montrer son rêve, je parviendrai peut-être à y pénétrer et à l'y trouver. Tenant dressée une frêle muraille d'art contre les menaces, les imprécations, les suppliques d'Imbre et le désarroi de devoir, je me plaquais contre la glace et cherchais la créature qui négligeait ma présence, mais ne put l'atteindre. Le temps filait comme le vent et progressait à une allure d'escargot tout à la fois. Il fallait que j'entre en contact avec Glacefeu le plus vite possible. Avant qu'Imbre eût le temps d'intervenir, physiquement ou par l'art, je ne doutais pas qu'il ferait tout pour m'arrêter. Il me revint qu'il existait un point où l'esprit du dragon et le mien s'étaient rencontrés et où j'avais eu accès à son rêve. Je n'avais nulle envie de retourner à ce moment ni à ce souvenir. En ce point, le temps avait pivoté, comme, je m'en rendis compte tout à coup, il pivotait à l'instant que je vivais actuellement. Je reconnaissais en lui une des fameuses croisées de chemin qu'évoquait le fou, un de ces carrefours où la décision d'un seul homme modifiait tous les événements qui s'ensuivaient. Burik avait choisi, par amour pour moi, d'user d'une magie qu'il jugeait odieuse. J'avais choisi de faire confiance au loup, de me laisser aller à une mort qui n'en était pas une, et sans le savoir, j'avais ainsi choisi de continuer à vivre. Je retrouvais ce lieu où mon expérience s'accordait à celle de Glacefeu. Je retrouvais le froid, l'obscurité, le désespoir, l'aspiration à une mort que je ne pouvais me donner moi-même. Je ramenais mon âme dans le cachot de Royal, au cou et à l'isolement. C'était une chose de savoir que j'avais croupi dans cette cellule, une autre d'y retourner, de sentir à nouveau le goût du sang qui suintait à la racine de mes dents ébranlées, l'odeur de mes plaies suppurantes et le froid des murs de pierre qui ne parvenaient pas à insensibiliser ma chair malmenée. Je me réintroduisis dans ce corps prisonnier et connus encore une fois le désespoir d'une mort qui se refusait à moi. J'avais beau expulser la vie de mon enveloppe charnelle et l'empêcher d'y revenir, elle refluait implacablement dans ma chair dès que je baissais ma garde.
D'où Seda? Était-ce donc vraiment toi, ainsi pris au piège? Je croyais qu'il s'agissait seulement d'un de tes cauchemars.
L'horreur d'Orti faillit m'arracher à mon accablement, mais au même instant, je sentis le dragon refaire surface près des rives de la vie. Dans cette fraction de seconde, nous nous rencontrâmes et ne fîmes plus qu'un en deux entités. Mon cauchemar et le sien se fondirent, et la conscience d'Orti s'écoula du mien dans le rêve ténébreux de Glacefeu. Je mesurai aussitôt toute l'étendue de mon erreur. Le songe du dragon se referma sur elle et l'entraîna dans l'abysse où il replongeait pour y noyer sa vie. J'entendis vaguement le cri d'épouvante d'Orti devant l'esprit totalement étranger qui la tenait désormais prisonnière. Je n'eus que le temps de pousser un hoquet d'horreur avant qu'elle ne disparût dans l'obscurité de poids qui l'engouffrait. En vain, je lançai mon art à sa recherche. J'avais l'impression de tâtonner dans une eau noire et glacée. Puis la présence du dragon disparut de mon esprit, et ma fille s'enfonça avec lui dans la mort qui l'appelait de toute son âme. Un jour, j'avais vu un poisson arc-en-ciel jaillir de la mer, saisir une mouette entre ses mâchoires et l'emporter sous l'eau. Je venais d'assister à la même scène. Orti se trouvait avec moi, prête à s'élancer là où je le lui indiquerais. Elle avait plongé et disparu dans un gouffre que je ne pouvais même pas imaginer. Je l'avais exposée au danger, sans armes, sans maîtrise de l'art, et elle s'y était jetée à ma demande. La démesure de ma stupidité m'arrachait le cœur. Je ne parvenais plus à battre des paupières ni à respirer. J'avais donné ma fille en pâture à un dragon. Je voulais réfuter ce qui se passait, obliger le temps à faire demi-tour par la seule force de ma volonté. Un événement aussi affreux n'avait pas pu se produire de façon aussi rapide, une erreur aussi monstrueuse de manière aussi irréversible.
Par son injustice même, elle était certainement impossible. Horty n'avait pas mérité pareille fin. La faute m'incombait, c'est moi qui aurais dû en payer le prix. Foyé par l'horreur, je me cassais les ongles sur une réalité de granit que rien ne pouvait entamer. Je ne pouvais pas faire que cette seconde de folie n'eût pas existé. Mais qu'est-ce qui m'avait pris? Pourquoi n'avais-je pas réfléchi avant de la précipiter dans le rêve du monstre? J'avais vaguement conscience des réactions de mes compagnons. « Qu'est-il arrivé? Où est-elle passée ?» demandait Devoir éperdu.
« Dans le dragon. J'y suis déjà allé. Il y a une grande musique, mais on ne peut pas sortir. Il ne voit pas qu'on est là, et il s'en fiche. Dedans, il faut devenir sa musique à lui. Il n'y a pas de place pour sa musique à soi. »
L'effroi et la révérence imprégnaient l'art de Lourd. Mais le pire fut la question d'Imbre.
« Oh, Fitz, qu'as-tu fait? Mais qu'as-tu fait ?»
répéta-t-il d'un ton accablé. J'aurais voulu mourir si la mort avait pu dissiper ma honte et mes remords. Je devais mourir parce que je ne supportais pas les sentiments qui m'agitaient. Et, dans cette conjonction atroce, je touchais à nouveau le dragon, et je sus qu'il avait puisé mon message en Horty. Il l'avait trouvé, et il exigeait d'en apprendre davantage, alors qu'elle ne savait rien. Il l'avait violemment ouverte et vidée, jeune femelle humaine et inutile, et l'avait trouvée pleine d'imagination sans intérêt, alors il l'avait rejetée, recrachée dans l'art comme un déchet indigeste, ainsi qu'un enfant frotte, sans y penser ses mains sales pour les débarrasser de la poudre qui ont déposé les ailes d'un papillon mort. Il s'était débarrassé d'elle alors que rien ne l'y préparait. Et elle se dispersait dans le fleuve de magie comme une goutte d'encre claire dans un torrent impétueux. Le dragon me découvrit soudain. Il se jeta en moi dans un grand rugissement, sans une parole, et m'éventra, m'exposant à l'art, comme il aurait déchiqueté la cicatrice d'une ancienne blessure. Le lien qui nous unissait n'était pas l'art, mais s'y apparentait bizarrement. Et en cet instant, je n'eus plus la maîtrise de rien. Je détenais le savoir qu'il désirait, et il s'en empara. Il déchira mon esprit comme une vieille bourse, retourna ma mémoire comme une malle pleine de bric-à-brac, et fouilla impatiemment dans mon existence à la recherche de ce qu'il souhaitait apprendre. Et, avant qu'il eût le temps de finir, notre sort, le sort de toute l'humanité, fut scellé. Car Tintaglia, avec un mugissement de tempête, pénétra en moi et se servit de la conscience qu'elle avait de moi pour repérer Glacefeu. J'eus l'impression qu'il convergeait en moi. Je les canalisai brièvement l'un vers l'autre, et ils se reconnurent. Alors, leurs esprits se joignirent, et ils m'écartèrent sans plus d'utilité, d'importance ni d'intérêt. Mais ils m'avaient laissé grand ouvert, retourné comme un gant, livré, les entrailles à nu, au courant turbulent de l'art. Je ne me trouvais plus, et je n'avais guère envie d'essayer. Je gisais, tel un poisson éviscéré dans le fleuve de magie qui emportait des parcelles de moi, et je voyais soudain mes murailles, non comme des protections, mais des obstacles qui m'interdisaient d'accéder au meilleur du monde. Certes, le courant d'art possédait des propriétés de séduction et d'intoxication, mais surtout, la fin qu'il me procurait me paraissait inévitable, jouée depuis toujours. Il m'effacerait, dissiperait mon identité et mes actes, charité impersonnelle, oui, mais à laquelle j'aspirais. Vérité se trouvait là, quelque part. Je le percevais comme un parfum presque oublié qu'un insidieux mouvement de l'air amène aux narines. Vérité et d'autres, plus vieux, plus sages et sereins. Quelle paix chez les anciens du fleuve d'art. Tout n'était que quiétude. Soudain, je perçus une agitation frénétique et j'entendis deux voix qui discutaient avec un débit si rapide que j'avais eu du mal à suivre sa pensée. Elle cherchait quelqu'un qui s'était perdu, une jeune fille, non, un homme, non, une jeune fille et un homme emportés par la marée. Je trouvais la nouvelle attristante, mais elle ne me concernait pas. Elle ne me concernait pas. J'aurais voulu qu'il cesse de s'inquiéter, qu'il se laisse aller et nous rejoigne. Pourquoi lutter contre la paix et l'unité qu'il pouvait partager avec nous?
N'as-tu pas honte?
Il referma sa mâchoire sur moi et me secoua furieusement.
N'as-tu pas honte d'avoir laissé la petite se noyer? Tu aurais tout fait pour me sauver, et j'aurais tout fait pour te sauver. Tu n'as pas le droit de l'abandonner. Ne sommes-nous pas de la même meute? Si tu ne réagis pas, tu me rejettes. T'en rends-tu compte? Y attaches-tu de l'importance? As-tu jamais été un loup?
Cette question me poignit plus durement que ses crocs et réveilla l'instinct de la lutte en moi. Je sentis Humbre et Devoir près de moi, liés en clan, qui s'efforçaient de nous trouver. Ils s'y prenaient très mal, semblables à des pêcheurs qui traîneraient une passoire dans la mer dans l'espoir d'attraper un poisson. Ils cherchaient Ortie à l'aveuglette, car nul à part lourd ne reconnaissait sa forme dans le courant d'art, et ni le prince ni le conseiller n'avaient songé à lui demander de la localiser. Je fis un effort pour me rassembler assez afin de les joindre. J'avais le sentiment d'opérer dans un songe où la succession des événements ne tient pas compte de la logique et où la réalité se modifie à chaque mouvement. Enfin, je touchais lourd d'un contact, sans guère plus de substance qu'un fil, se posant sur sa manche, et je chuchotais. « Repère la femme qui a aidé le chaton. C'est à cela qu'elle ressemble ici. Trouve-la. » Et il la trouva. Nous le savions doué d'une grande puissance, mais jamais nous n'avions pris sa mesure dans le fleuve de magie, où seul comptait son sens de la navigation. Il entonna la chanson qui représentait Ortie, et elle s'agrégea autour des notes. Plus qu'il ne la chercha, il l'appela à emplir la forme qu'il avait créée pour elle. Puis, comme s'il reposait une figurine de verre sur une étagère, il la replaça délicatement au creux du songe qu'il avait tissé d'elle. Avait-on jamais regardé une femme comme un objet aussi précieux? L'espace d'un instant, je distinguais l'intérieur de la roulotte. Puis, j'entendis le chaton rouler en boule sur le lit dire à la femme qui gisait, inerte, près de lui. « Tout va bien. Repose-toi. Tu sais comment rentrer chez toi à partir d'ici. Repose-toi un moment, puis retourne chez toi. Tu n'as plus rien à craindre. Tu sais que je t'aime. » Je ne disposais que d'une fraction de seconde pour m'émerveiller de ce qu'il avait accompli sans effort, car il perçut soudain ma présence et me jeta hors de son rêve. Je n'y avais pas ma place. Pourtant, cette expulsion constituait une reconnaissance de ma forme. Il m'avait fixé en moi-même afin de pouvoir me chasser de leur monde, et je sentis tout à coup Devoir m'agripper. « Vite, vous voici. Nous vous croyons perdus. »«
Pourquoi nous as-tu trahis? Qu'as-tu fait? Où est la petite ?»
demanda Humbre d'une voix blanche.
« Ortie va bien. Je l'ai remise en état. Maintenant, je vais le rafistoler lui aussi. »
répondit Lourd d'un ton pragmatique. Et il me réintroduisit dans mon corps, sans autre forme de procès. Je me retrouvai allongé, pantelant, sur le sol glacé du tunnel. Après quelques tâtonnements, je réussis à ouvrir les yeux et découvris un monde rouge et noir. Il me fallut un moment pour comprendre que je regardais les braises qui tapissaient la casserole. Mes doigts reposaient sur le petit pot de poudre. Épuisé, je renonçais à réfléchir. Quelque part, autour, à l'intérieur et en dessous de moi, les dragons communiquaient, et leur échange roulait comme le tonnerre dans mes poumons. Je ne voulais pas prendre part à cette communion. J'avais déjà manqué de peu d'en mourir. Rassemblant ce qui me restait d'énergie, je me mis à quatre pattes. Si mes membres m'obéissaient, je parviendrais à sortir ainsi du boyau. Trois événements se produisirent en même temps. J'entendis Devoir m'appeler depuis l'entrée du passage, je sentis une fissure s'ouvrir brusquement dans la glace sous ma main et filer en zigzag vers la lueur de l'aube qui filtrait jusqu'à moi, et la femme pâle envahit mon esprit. Elle possédait l'art. J'aurais dû m'en douter et me montrer plus prudent. Elle regardait dans mon âme de ses yeux délavés et me transperçait de sa haine. J'eus l'impression de recevoir une volée de gifles quand elle déclara « Tu as choisi, roi bâtard. Tu as préféré un dragon à ton bien-aimé. Tu devras supporter la responsabilité de cette décision toute ta vie, et lui aussi, du moins, pour un bref moment, jusqu'à ce que je t'en montre les conséquences. » Et elle disparut, me laissant effondrer et souillé de son contact. Une malignité aussi virulente ne connaît pas de limite. Par mes actes, j'avais condamné le fou à subir toutes les souffrances qu'elle pourrait lui imposer avant que son esprit ne le quitte tout à fait. Mes forces m'abandonnèrent et je m'écroulais par terre, privé de toute volonté, incapable de me déplacer. À nouveau, je perçus un mouvement indistinct sous moi et j'entendis l'étrange plainte aiguë de la glace, puis tout s'arrêta. Je n'aspirais qu'à plonger dans le néant, comme glace-feu pour y chercher la mort, mais Devoir, agenouillé près de moi, me secouait frénétiquement.
« Relevez-vous, Fitz, relevez-vous, il faut sortir d'ici.
Le dragon s'agite et la glace se fracture. Elle risque de nous ensevelir. Allons, en avant !»
Comme je restais inerte, sans énergie, il me saisit par le col, me traîna hors du tunnel et me ramena par la rampe dans le monde de la lumière et des hommes.